À Rencontre spirituelle aujourd'hui, c'est la fête de bien des saints en particulier. Évidemment, de Sainte Marguerite Diouville, que nous célébrons ici. C'est la fête de Sainte Edwige aussi, qui a été canonisée assez récemment. C'est la fête de Sainte Marguerite Marie à la Coque, qui a reçu ses révélations magnifiques sur l'amour de Jésus pour nous, les révélations du Sacré-Cœur, ce cœur tout aimant. C'est celle-là que l'on célèbre d'ailleurs en France. Et c'est aussi la fête de Saint Gérard Majella. Alors je vous fais Saint Gérard Majella, on peut pas faire toujours les mêmes saints chaque année. Et Saint Gérard Majella, bien, c'est vraiment un saint extraordinaire. Je ne le connaissais pas tellement et puis je me méfiais de ce saint. Je ne sais pas pourquoi. Depuis mon enfance, Saint Gérard Majella, ça impliquait pour moi un peu quelque chose de mythique et qui n'avait pas de bon sens. Il est vrai, comme disent les bénédictins dans leur immense ouvrage en 13 volumes, que cet humble frère convert à la vie intérieure profonde a été gratifié par le ciel de quantité de prodiges. Il n'y a pas lieu de l'envier sur ce point sans grand intérêt. Pourtant, je me demande si ça n'a pas un certain intérêt que les prodiges qui ont entouré la vie de ce jeune homme, mort à 29 ans, qui n'est jamais devenu prêtre, c'était un frère convert, rédemptoriste, qui est mort l'année même de la déportation des Acadiens en 1755. Il est extrêmement attachant, ce Saint Gérard Majella. Je suis très content d'avoir lu des vies énormes à son sujet. J'ai parcouru avec fascination ce vieux livre du Père Dunoyer, paru il y a 50 ans et davantage, en 1943, chez les Pères de Saint-Paul à Paris, à la librairie Saint-Paul. Et j'en ai lu d'autres. Mais j'ai reçu dernièrement, avec beaucoup de joie, un très beau texte du père québécois Samuel Baillargeon, un rédemptoriste. C'est très bien fait, c'est paru il y a quelques années. Vous pouvez sans doute l'obtenir à la paroisse Saint-Alphonse, chez les pères rédemptoristes, ici à Montréal, au boulevard Crémazie, métro Crémazie. Petite brochure intitulée « Prières et neuvaines à Saint-Gérard Majella », puis il y a une vie de Saint-Gérard Majella. Et je dédie donc cette émission au maire. Les surprendre. Vous allez être surprise. Oui, aux mères, aux jeunes mères. Et vous verrez pourquoi à la fin. Gérard Majella, je vous ai dit, frère rédempteuriste, a été canonisé le 11 décembre 1904. Donc, 150 ans après sa mort. Quand l'Église universelle propose un modèle comme ça à imiter, c'est que l'Église veut souligner d'une façon bien spéciale ce qui était comme la note caractéristique de la vie de Saint Gérard Majella. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'il était, selon les témoins entendus au procès de canonisation, là, il était la vivante image de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Il imitait Jésus en tout point. Je suis sûr que l'imitation de Jésus, et plus particulièrement de Jésus souffrant, ça a été la préoccupation constante du frère Gérard Majella tout au long de sa vie. Il avait avec Jésus une intimité qui a commencé alors qu'il est encore jeune. Et c'est là que je commence à raconter des prodiges. Vous y croyez, vous n'y croyez pas, mais c'est raconté par des témoins sérieux. C'est des gens sérieux qui ont porté témoignage. Parce que c'est une suite presque ininterrompue de phénomènes. Avec les années, cette intimité avec Jésus a engendré, quoi, une manifestation presque continuelle, donc, de faits miraculés, qu'on voit rarement à un tel degré chez les saints. Il y a Saint Joseph de Cupertino, un peu dans ce même genre, quelques autres. Père Pio. C'est une suite, donc, presque ininterrompue de prodiges, de guérisons, d'interventions extraordinaires de Dieu. Elles sont si abondantes qu'on les dirait comme spontanées chez frère Gérard Majella. Ces dons font penser au charisme, dans un certain sens, de guérison, là, qu'avait reçu en partage notre bienheureux André Bessette, là, le frère André, fondateur de l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal. On a dit que la vie de Gérard Majella n'a été finalement qu'un long miracle. Non, on reste souvent sceptique, évidemment. Moi, le premier, devant les faits de ce genre. On voudrait bien, moi, j'aimerais bien, en tous les cas, avoir des preuves scientifiques et puis des précisions sur les circonstances concrètes de certaines des manifestations que Dieu a témoigné de sa puissance dans la vie de Saint-Gérard-Magellan. Il faut avouer que dans la vie de Saint-Gérard-Magellan, sur bien des cas, il est difficile d'hésiter. Il a vécu en contact constant avec le peuple avant son entrée en religion, puis après sa profession religieuse. Ses supérieurs étaient de plus des hommes sérieux, c'est pas n'importe qui, hein. D'abord, il est entré au début de la congrégation des rédempteuristes qui a été fondée quelques années plus tôt, une quinzaine d'années plus tôt, je pense, par Saint Alphonse de Liguori. Or, Saint Alphonse de Liguori était un avocat réputé, c'était un homme de grande culture, c'était un homme instruit, un noble, qui était le supérieur général du frère Gérard Magellan. Puis il y avait aussi le père Paul Caffaro, qui était un homme d'une vie intérieure profonde, c'est un homme sérieux, à tel point d'ailleurs que sa cause de canonisation est introduite en cours à Rome, là. C'est bien consciemment qu'ils ont laissé le frère Gérard Magellan accomplir d'innombrables guérisons. Ils le savaient. Ils le laissaient faire. Ils faisaient des lectures de conscience. Si quelqu'un avait caché une faute, lui qui n'était pas prêtre, était frère, il ramenait la personne au confessionnal pour lui dire « Vous avez oublié telle faute et vous n'avez pas voulu l'accuser. » Il y avait d'autres merveilles encore plus étonnantes. Je vous en raconterai peut-être. Ils l'ont envoyé finalement, les prêtres de Redemptoristes l'ont envoyé sur les routes comme s'il avait presque été prêtre pour que ce témoignage soit perçu par les petites gens. Et Gérard Magellan a vécu dans la Basilicate. C'est la région du sud de l'Italie, là, à l'est de Naples. C'est de là que vient notre président de Radio Ville Marie, Raphaël Piro. Raffaele Piro, qui vient de San Giovanni Rotondo, hein, là où était le père Pio. Alors, le pays de Saint-Gérard, c'est une région montagneuse, ce pays de Raphaël Piro. Si brûlé par le soleil, j'y suis allé déjà en 1950. Or, c'est fouetté par le vent, puis les petits villages s'accrochent aux cimes des montagnes. C'est une contrée de pauvres, de petites gens. Donc, je ne vais pas attaquer M. Raphaël Piro, qui est un homme distingué. Et les supérieurs du frère Gérard Magellan ont compris qu'il avait été envoyé sur la terre pour faire revivre une page de l'Évangile. Comme Jésus en Galilée, Gérard a côtoyé les pauvres, et comme il était intimement uni à Jésus, bien quoi, qu'est-ce qu'il a fait? Bien, il a fait pour eux ce que Jésus faisait. Il a parlé du royaume de Dieu, puis il l'a rendu proche concrètement, là, en multipliant les merveilles sous ses pas, comme Jésus. Et à le voir vivre, à le voir prier, et surtout, en recueillant les conseils qu'il donnait de bon cœur, on savait que tout cela venait de Dieu. Et comme au temps de Jésus, bien, on se pressait autour de lui là pour solliciter toutes sortes de secours puis d'assistance. Et si nous sommes un peu scandalisés ou tout le moins un peu stupéfaits de voir tant de merveilles accomplies par le frère Gérard Magellan, ses contemporains, c'est sûr qu'ils l'ont probablement été encore plus que nous, le sommes. Gérard Magellan a vécu en plein 18e siècle, c'est celui qu'on appelle le siècle des Lumières et des philosophes. Tout était mis en question, tout était remis en question. Tout était soumis au contrôle strict de la raison. On cherchait à minimiser, voire à supprimer l'action de Dieu dans la vie individuelle, puis dans la vie sociale aussi, évidemment. Mais c'est précisément à cette époque qu'est apparu le frère Gérard Magellan. Il a dérouté les certitudes trop humaines. Nous sommes souvent trop cérébraux, nous, aujourd'hui, on veut pas lire des vies comme ça, on dit c'est exagéré. Mais il a fait ça pour remettre en lumière les valeurs de l'Évangile pour les pauvres de son temps. Il s'est soumis à Dieu. L'amour, le don de soi, puis la confiance, c'est ça qui mettait de l'avant. Et surtout la recherche en tout de la volonté de Dieu, dont je vous ai parlé surtout mardi dernier. Il faut garder tout cela à l'esprit quand on rappelle les principaux événements de la vie de Saint Gérard Magellan. Ce qu'on sait de son enfance, c'est que Gérard Magellan est né le 6 avril 1726 à Mouraux, M-U-R-O, Mouraux. C'est une petite ville à 75 kilomètres de Naples. donc il est dans la région du sud de l'Italie. C'est en direction sud-est même de Naples. C'est un site éminemment pittoresque. C'est au cœur de ces montagnes, là, les Apennins. C'était à l'époque le siège d'un tout petit évêché de rien du tout, qui est rattaché maintenant à un siège plus important, celui de Potenza. Le père Dominique Magella, son père, Dominique Magella, était ailleurs. La mère, Benoît Gallella, c'est drôle, son père s'appelait Dominique, sa mère Benoît, des grands fondateurs d'ordre. C'était une brave femme, une excellente chrétienne, puis une mère dévouée, hein, comme presque toutes les mères, jusqu'à il n'y a pas bien longtemps. Mais il en reste. Et Gérard Magella était l'unique garçon. Il y avait deux filles qui complétaient la famille. Quand la mère allait à l'église, ou visiter les sanctuaires, ils sont très nombreux dans la région, elle amenait avec elle ses enfants. Elle remarque que Gérard est différent des enfants de son âge. Il s'est déjà rejoint ses amis d'en haut, les amis du ciel, dans la prière. Puis il manifeste un sens de Dieu étonnant. Hein? Gérard n'a que 5 ans quand se produit un incident qui est rapporté par tous les biographes de Saint-Gérard Magella. Il y avait près de Mouro, à une distance d'1,5 km, une petite agglomération là qui était appelée Capotignano. On y vénérait une image de la Madone qui tenait dans ses bras l'enfant Jésus, et Gérard s'y rend tout seul. Puis au moment où il s'agenouille, l'enfant Jésus vient jouer avec lui. Vous direz, ça n'a pas de sens. Vous verrez. Écoutez bien. L'enfant Jésus lui donne finalement un petit pain d'une extraordinaire blancheur, disent les témoignages les plus anciens de cette époque. Gérard l'apporte à la maison. « Qui t'a donné ce pain ?» Puis répond, c'est l'enfant d'une belle dame, il est venu jouer avec moi. Et pendant, il y a 5 ans, hein, pendant plusieurs jours, Gérard refait le trajet et à chaque fois, il rapporte un petit pain. Alors la mère et la sœur aînée, qui se nommait Brigitte, je vous ai fait Sainte Brigitte de Suède il y a quelques jours, alors elles le suivent toutes les deux, elles sont témoins du prodige. Qu'est-ce qu'elles voient? Elles le voient. Elles voient le prodige. Bien des années plus tard, Brigitte Magella est en visite au couvent où se trouve Gérard, son frère, qui est devenu rédemptoriste, puis il lui dit au cours de la conversation, « C'est curieux, je comprends maintenant que c'était l'enfant Jésus qui avait l'habitude de me donner des petits pains. » « Très bien, lui dit sa sœur, allons ensemble lui faire une visite à la chapelle. » Puis il répond, c'est très étrange, « Non, car aujourd'hui je suis plus âgé, je le trouve partout où je suis, et aussi souvent que je le veux. » C'est beau. Et c'est pour rappeler cet événement que le jour de la Saint-Gérard, on a l'habitude de bénir des petits pains de Saint-Gérard qu'on distribue à ceux qui viennent à l'église le 16 octobre, ça m'est déjà arrivé, à l'église Saint-Alphonse, au boulevard Crémazie. À 8 ans, il va à l'école, puis à 9 ans, il peut enfin faire sa première communion. À 10 ans, il communie quotidiennement. Ben oui, on communiait quotidiennement, nous aussi, depuis l'âge de 6 ans, dans notre temps, dans les années 30. Et le temps des études est vite terminé pour Gérard. Puis en 1738, il y a un tailleur c'est-à-dire son père, qui était tailleur, Dominique Magella, meurt. Et puis, Gérard est envoyé sur le marché du travail pour faire vivre sa famille. Puis arrivent les longues années de maturité, hein, de l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 23 ans. Hein. Cette période s'étend donc sur près d'une douzaine d'années. Se présente comme une lente période de maturation spirituelle. Et quand Gérard Magella va devenir religieux rédemptoriste, il aura déjà atteint une plénitude de sainteté si grande que très tôt, on va l'envoyer témoigner partout autour de lui, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur les routes, même s'il n'est pas prêtre. Dans la vie d'un saint comme celle de Gérard Magella, il y a des années de recherche et d'ajustement intérieur. On doit tous faire la même chose de toute façon, à divers degrés. Si on le faisait totalement, nous deviendrions tous des saints. Et chez lui, ces ajustements-là, les ajustements intérieurs, ont laissé parfois, ceux qui le connaissent, à l'époque, assez perplexes sur le véritable comportement de Gérard. Car la sainteté est parfois un peu originale. Il est encore déjà, mais est encore tout jeune que déjà, il a compris ce qu'on a tellement de difficultés à comprendre, nous, la folie de l'abaissement de Jésus. Nous avons tous, moi le premier, nos petites vanités, nos petits orgueils, nos petites impatiences, et nous sommes pris dans tous ces péchés. Mais lui, il comprend. quel exemple merveilleux. Il comprend la folie de l'abaissement de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Un Dieu qui s'anéantit. Je vais vous parler justement demain de Dieu qui s'incarne. C'est la suite de l'émission de mardi dernier. Jésus qui s'incarne, pourquoi? Donc, Dieu qui s'anéantit, il réfléchit à ça, Gérard Magellan. Ce Dieu qui devient un homme, qui descend jusqu'à l'obéissance de la croix, puis qui se livre par amour. Par amour. Oui, par amour pour sauver les hommes. Il y a là une ligne de spiritualité, un chemin à imiter. Et Gérard Magellan, tout jeune, le suit. Il suit ce chemin-là. Il se met, lui aussi, à chercher la voie du mépris. C'est pas facile, ça. Et de l'abaissement. Mais en recherchant cette voie, jamais il n'a perdu de vue un seul instant qu'il fait tout cela par amour. Et par imitation du Christ, de Jésus crucifié. C'est pas du masochisme, c'est de l'amour. À 12 ans, Gérard prend un travail comme apprenti tailleur, puis son père était tailleur. Il va chez M. Panuto, et le tailleur estime beaucoup le jeune Gérard Magellan, qui se montre appliqué puis habile dans son métier. Mais Gérard relève personnellement d'un contremaître qui prend cet apprenti Gérard en aversion. Dès les premiers contacts, ce bonhomme, il est violent, il est brutal, puis il est incapable de tolérer de voir Gérard Magellan comme absorbé dans la prière, ça lui répugne. Gérard a beau se dissimuler dans les encoignures pour se recueillir un peu, à l'occasion, le contremaître le suit de l'œil. Il prend plaisir à le frapper, surtout quand ce Panuto n'est pas là, quand le patron n'est pas là. Ce qui choque encore davantage le contremaître, c'est que Gérard ne rouspète pas et qu'il lui dit tout doucement, « Frappez, frappez, vous avez bien raison, je mérite bien pire que cela. » Il a 12-13 ans. Hein? Il pratique cette imitation de Jésus-Christ qui dit que lorsque l'on reçoit un soufflet, on présente l'autre joue. Quand il se faisait fouetter, il présentait son dos. Quand il se faisait frapper à la figure au moment de la passion, il ne répondait pas. Il ne disait rien. Oh, c'est pas facile. Un jour, le contremaître le bat si violemment que le patron, Panuto, accourt au bruit. Saint Gérard Magellan dit « Je suis tombé de la table » pour éviter que le contremaître soit puni. Mais le patron Panuto voit clair dans la situation, puis il congédie le contremaître par la suite. Alors le maître tailleur a compris que le jeune apprenti qu'il a est vraiment un jeune homme épris de Dieu. Il l'a vu prier à l'église pour réparer pour les blasphèmes contre le Saint-Sacrement. Tous ces blasphèmes contre le Saint-Sacrement, ça le touche, ça le blesse. Il veut consoler Jésus. Il en a été fort édifié, le patron, en le voyant. Et quand Gérard est devenu capable d'exercer son métier, il est engagé chez un autre tailleur. Là, c'est vraiment la situation toute différente. Le patron a non seulement de l'estime et de l'admiration pour son employé, mais il l'aime comme un fils. Et ce sentiment est partagé par les autres employés, mais Gérard est trop bien. Là, il commence à lorgner du côté de la vie religieuse. Il y a une saison qui est capucin. Il lui demande s'il peut rentrer chez les capucins. Or, les capucins le refusent à cause de sa jeunesse et surtout à cause de son état de santé qui est plutôt piteux. Hein. Il est maigre, il est décharné. Puis être capucin, ça demande une très bonne santé. Surtout à l'époque, c'était extrêmement sévère, même encore récemment. Hein. Le père, l'abbé Pierre nous raconte ça, son noviciat, c'est terrible. Et Gérard est désappointé. Alors il pose un geste qui nous surprend toujours dans la vie des saints. Il choisit délibérément d'aller travailler dans une maison où la vie sera plus difficile et plus dure. Il le fait avec l'intention de se rapprocher toujours un peu plus de Jésus, qui a choisi lui aussi le chemin de la souffrance et de l'abaissement. Il avait un maître qui était incapable de garder auprès de lui aucun serviteur par suite d'un tempérament trop colérique. Vous verrez qui c'est. Ce maître était un prêtre, un ecclésiastique. C'était même l'évêque de Lacedogne. Un pauvre vieil évêque était devenu impatient en vieillissant. Mais il faut dire qu'il souffrait de maladies puis de certaines faiblesses. Hein. Il y a de vieux évêques comme ça. Ça se voit. C'est bien dommage. Il faut prier pour eux. Alors Gérard Magellan a 16 ans, quand il entre au service de cet évêque. Il va y rester 3 ans. Hein. La vue de ce jeune homme, toujours empressé et souriant malgré les colères et les scènes de mauvaise humeur exaspérées du vieil évêque, ça surprend tout le monde. Mais Girard se montre attentif et patient, au point de devenir le compagnon indispensable de ce vieil évêque. Et il vit ainsi, comme je vous ai dit, 3 ans jusqu'à la mort de l'évêque. Et même il pleure quand ce pauvre évêque meurt, comme s'il avait été un de ses bienfaiteurs. Cependant qu'il est au service de l'évêque que Girard accomplit sa première merveille, au su et au vu de tout le monde, tout le monde est témoin. L'évêque est sorti, puis écoutez bien ça, et Girard a profité de son absence du palais épiscopal pour aller refaire la provision d'eau au puits général, au puits communal. Alors il a apporté la clé du palais de l'évêque, avec lui, puis en descendant la cruche au fond du puits, il échappe dans le puits. Toute l'affaire, la clé. Sans hésiter, il court à la sacristie de la cathédrale. Il prend la statue de l'enfant Jésus, puis le descend dans le puits. Vous direz que ça n'a pas de bon sens. Écoutez bien. Quand il la retire, la clé est dans la main de la statue. Il y a une foule autour du puits, et tout le monde est témoin de la scène. Les documents sont là, et c'est très sérieux, paraît-il. C'était porté au procès de canonisation, puis de béatification. À partir de ce moment-là, tout le petit peuple, évidemment, sait que le jeune Girard, Magella, Girardiello, comme on le disait, était un garçon différent des autres. C'est déjà un homme de Dieu, un jeune homme de 17-18 ans, comme il pourrait y en avoir des milliers à Montréal si on enseignait la foi chrétienne vivante. Vivante! À la mort du vieil évêque, Girard a 19 ans. Comme il ne prévoit pas pouvoir entrer dans une communauté religieuse, il revient dans son village natal, à Mouraud, puis il ouvre un atelier de tailleur, c'est son métier, son propre compte, dans la maison de sa mère. Il est très habile dans son métier. Il a tout de suite une bonne clientèle, puis il fait 3 parts de ses revenus, imaginez. Une pour sa mère et les besoins de la maison. La deuxième, pour les pauvres de Mouraud, du village. Et la troisième, c'est pour lui? Non, c'est pour les pauvres âmes du purgatoire. Il occupe ses loisirs à aider les pauvres, à visiter les églises. Il prie devant Saint-Sacrement. Il sait prier devant Saint-Sacrement déjà, à 19 ans. Et souvent tard dans la nuit, il réussit à convaincre quelques-uns de ses amis, même à faire de même. Et pourquoi pas? Il entraîne ses amis. Et la congrégation du Très-Saint-Rédempteur, les Rédempteuristes, avait été fondée en 1732. Par saint Alphonse de Liguori pour répandre l'Évangile auprès des âmes les plus abandonnées. Girard a 23 ans. Quand il voit les premiers rédempteuristes venus prêcher une mission à Mouraud, son village, le chef des prédicateurs, c'est le père Paul Caffaro, dont je vous ai parlé, un homme de Dieu chevronné, d'ailleurs dont la cause est introduite en cour de Rome. Je pense même qu'il a été béatifié, si j'ai bonne mémoire. Alors Girard Magella est attiré fortement vers cette congrégation des rédempteuristes, puis il demande au père Caffaro d'y entrer, mais il reçoit un refus catégorique, il est bien que trop délicat de santé pour devenir frère dans la congrégation des rédempteuristes. Girard ne se tient pas pour battu. Mais sa mère a eu vent de la démarche qu'il vient de poser. Elle craint de perdre son fils, elle en a besoin, alors elle l'enferme à clé dans la maison. Elle n'est pas méchante, mais elle l'enferme à clé dans la maison jusqu'au départ des missionnaires. Alors Girard fait quelque chose de bien merveilleux, il s'échappe par une fenêtre du 2e étage, par un câble, en attachant bout à bout les draps de son lit. Ça vous rappelle peut-être la vie de Saint-Jean de la Croix, quand les Carmes l'ont enfermé parce qu'il voulait les réformer. Il s'est sauvé comme ça, après 2 ans d'emprisonnement. Mais lui, il attend pas 2 ans, il sort tout de suite, puis il laisse une note sur sa table qui est merveilleuse, c'est merveilleux. Il écrit à sa mère, « Parti pour devenir un saint ». C'est formidable. Et Girard sait que les pères prêchent dans une petite ville toute proche, alors il rejoint le père Caffaro, puis il dit, « Prenez-moi à l'essai, vous pourrez m'envoyer là où vous voudrez. » Et il assure qu'il se tiendra à la porte du presbytère aussi longtemps qu'il ne sera pas accepté. Et le père Caffaro est impressionné par son insistance. Alors là, il lui donne la chance d'essayer, puis lui remet un billet, puis il l'envoie à Illecetto, un couvent où il est lui-même supérieur, et le billet est destiné à son remplaçant. Et il contient ceci. Écoutez bien. Je vous envoie un frère inutile. Aujourd'hui, donc, il est question de Saint-Gérard Magella, et quand le père Caffaro qui l'a fait rentrer au couvent des rédempteuristes, revient au couvent, là, et il n'est pas au bout de ses surprises. Ce cher Gérard Magella, qui a 23 ans, a été admis au noviciat. On avait découvert que sa délicatesse de santé et surtout sa vie de mortification ne l'empêchaient pas de rendre toutes sortes de services. Ses confrères de noviciat disaient « Il fait l'ouvrage de quatre frères en même temps. » Et de fait, Gérard abat son ouvrage. Puis, il va donner un coup de main aux autres. Il dit « Laissez-moi faire et allez vous reposer. Je suis encore jeune, ça ira. » On l'a orienté vers des tâches qui ne lui sont pas familières. Hein. On l'a nommé jardinier. Il ne connaissait pas ça, mais ça fait rien. Il n'a jamais fait ce travail. Et pourtant, tout réussit à merveille. Et on s'aperçoit vite aussi qu'il est bien plus qu'un grand travailleur, hein, il passe des heures en prière. Oui, des heures en prière devant Saint-Sacrement. Comme Sainte-Thérèse d'Enfant Jésus, 2 heures par jour. Sainte-Thérèse d'Avila, 2 heures par jour. En plus des prières qu'elles font ensemble, la récitation de ce qu'on appelle l'office divin. Il cherche toujours, Gérard, à s'effacer puis à passer pour méprisable. Ça, c'est extrêmement difficile, ça. On disait de lui, ce frère est soit un fou ou un grand saint. On s'aperçoit assez rapidement que c'est un grand saint. Certains faits font réfléchir ses supérieurs et ses confrères. Un jour, il sert à table 2 autres de passage quand tout à coup on remarque que le service est interrompu. Un frère le découvre en extase devant un tableau de Lecce Homo. Je l'ai devant moi, cet Lecce Homo, vous savez. C'est un Christ qui est couronné d'épines, couvert de sang, les bras noués, attachés. C'est le Christ des douleurs, hein, le Christ de la passion. Et qui a la bouche ouverte et les yeux suppliants. C'est typique de l'art sacré espagnol, très réaliste et bouleversant. C'est pas tout le monde qui aime ça. Moi, ça me touche un peu une âme espagnole, peut-être. Alors il est touché, il est en extase devant ce tableau de Lecce Homo. Il essaie vainement de le ramener à terre, parce qu'il soulève, il est en extase, il lève dans les airs, mais le supérieur coupe court au ravissement et lui ordonne de faire son ouvrage. Le supérieur est réaliste et se demande s'il n'y a pas des affaires démoniaques là-dedans, d'autres termes. Hein. En une autre circonstance, Gérard cause avec 2 étrangers devant la porte du couvent, quand il voit un infirme couvert de plaies qui demande l'aumône, Gérard, saisi d'une inspiration subite, baise les plaies de ses jambes. Et qu'est-ce qui arrive? La guérison est instantanée. Le temps du noviciat des frères durait plusieurs années à cette époque, mais saint Alphonse de Ligorie, le fondateur, à la suite des rapports qu'on lui a faits au sujet du frère Gérard Magella, l'admet à la profession 3 ans après son entrée. Et là, c'est la vie publique de Gérard Magella, de 26 à 29 ans. Il va mourir à 29 ans. C'est 3 années de vie publique, un peu comme pour Jésus, pour ainsi dire. Telle est la carrière de frère Gérard Magella après sa profession. Ce sont 3 ans où il va prêcher le Christ. Par l'exemple extraordinaire de son union avec Jésus. Et tout ça, c'est auprès des petites gens de la Basilicate, la région dont je vous ai parlé. C'est la région de Monte Gargano, de Foggia, de San Giovanni Rotondo, de tous ces endroits-là, là. Où vous allez, j'espère, un jour, non seulement vénérer Saint-Michel, mais aussi peut-être prier à la tombe du Père Pio. Et presque aussitôt après sa profession religieuse, Gérard Magella, quoique attaché à la maison di Licetto, commence à changer souvent de lieu de résidence. Il est envoyé sans cesse en mission. C'est pourtant pas la manière habituelle de faire avec les religieux rédempteuristes à l'époque, hein, on permettait pas, surtout aux frères, de séjourner en dehors de la maison, à moins de faire partie des équipes, là, des prêtres, là, qui s'en allaient prêcher des missions. Le père Fiocchi, qui a remplacé le père Caffaro comme supérieur, envoie donc Gérard pour des tournées de quête dans les environs. La maison di Licetto, le couvent, là, ou la maison des religieux rédempteristes, vit dans une très grande pauvreté. Il faut trouver des ressources pour vivre, et Gérard part. Parfois, il trouve gîte et couvert dans une maison de rédempteuriste, dans les petites villes italiennes, là où il va. Et puis, d'autres fois, Il séjourne dans une famille amie ou chez des curés des paroisses. Il voyage à pied, à cheval ou parfois même en voiture quand on lui en donne l'occasion. Comme il a l'habitude de donner aux pauvres ses habits ou ses chaussures, il est souvent pieds nus et vêtu de haillons. Oui, il donne ses habits, ses chaussures. Sinon, oui, hein. Il mange ce qu'on lui donne et à plusieurs occasions, on réalise qu'il n'a pas encore mangé au moment où il s'évanouit de faiblesse. Alors les supérieurs comprennent que ce simple frère est appelé à devenir un apôtre des populations qu'il visite. Non seulement des petites gens là, qui sont sa clientèle préférée, mais aussi des personnes qui appartiennent à toutes les classes de la société. Quand sa visite est annoncée d'ailleurs dans un village, on se dit « Tiens, le saint s'en vient ». Et c'est à qui va l'héberger pour la nuit. D'ailleurs, quand Jésus envoie ses disciples à travers la Galilée, souvenez-vous, il leur demande d'annoncer la parole de Dieu, mais aussi de guérir les malades. C'est pas tous les prédicateurs qui s'occupent de ça. Guérir les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts, chasser les démons. Or, frère Gérard fait un peu tout cela. Oui, il fait tout cela. Mais ce qui semble comme la marque distinctive de son action évangélique, c'est une sorte de sagesse supérieure. Et qui s'affirme comme spontanément, c'est pas un bonnet. Hein? À chaque fois qu'il entre en conversation sur les choses spirituelles, il étonne tout le monde. Très tôt, d'ailleurs, on se met à lui demander son opinion personnelle sur les problèmes intimes de la conscience et même sur des questions théologiques. Et ces demandes viennent même d'évêques, de prêtres et de membres des ordres religieux, et de personnes de haut rang même. Il y a des requêtes incessantes pour obtenir une visite du frère Gérard. On remarque aussi que ces visites, ça change rien chez son union intime avec Jésus. Au contraire, c'est par suite d'une lumière intérieure qui vient de sa continuelle familiarité, de sa grande familiarité intime avec Jésus, que les merveilles s'accomplissent. Jésus est à l'œuvre. Oui, Jésus est à l'œuvre, et c'est par Gérard Majella que toutes ces merveilles s'accomplissent. Gérard n'est qu'un instrument. Nous sommes tous des instruments. Des instruments, au fond, inutiles dont Dieu se sert. Il faut être disponible, on est des robinets, quoi, comme je dis souvent. Il le sait, lui. Il le sait vraiment. C'est une conviction profonde, ce n'est pas que des paroles. Il ne cesse d'entretenir par la prière une union qui ne se démange jamais. Puis de plus, il a un don unique chez lui comme le curé d'Ars, qui est la lecture dans les consciences et dans les décisions intimes. Il voit non seulement les fautes, surtout celles qu'on n'a pas le courage de confesser, mais les doutes, les scrupules. À plusieurs reprises au cours de ces tournées-là, il fait des interventions, presque à brûle-pourpoint. L'exemple le plus frappant est celui du secrétaire de l'archevêque. Ça, c'est un fait connu, ça. Le secrétaire de l'archevêque qu'il vient de rencontrer au couvent de Capocelli. Le secrétaire est un homme de loi qui passe au service de l'évêque. C'est un homme joyeux qui aime à rire, à plaisanter. Il est sympathique. Il sait créer la joie avec tout le monde où il se trouve. Il est grandement apprécié par l'archevêque lui-même. Et Gérard lui-même le trouve sympathique d'ailleurs. Il se montre intéressé à tout ce qu'il dit, puis ce qu'il raconte. Et Saint-Gérard, qui est pas toujours facile à dérider, tellement il est un peu trop absorbé, il montre au contraire un grand plaisir à écouter les mots d'esprit du secrétaire de l'évêque. Mais un jour, il l'aborde dans la chapelle du couvent, et il lui dit « Comment pouvez-vous être si aimable ?» Alors que vous vivez dans l'inimitié de Dieu, vous prétendez être célibataire et être un homme libre, alors que votre épouse est présentement à Rome. Le secrétaire est alors profondément touché. Il se réconcilie avec Dieu, puis il retourne vivre avec son épouse. Saint Gérard vient souvent en aide à des jeunes filles qui désirent entrer au couvent. Parfois, il leur fournit l'argent pour constituer la dot, qui est nécessaire à leur admission. Un jour, Niria Caggiano, qui est une de ses filles, c'est une jeune fille que Gérard assiste, mais après 3 semaines de séjour au couvent, elle trouve la vie ennuyante, elle retourne dans sa famille, et pour expliquer sa sortie, elle n'ose pas dire qu'elle s'y ennuyait, elle commence à raconter des faussetés sur la vie des religieuses, Évidemment, les gens ne la croient pas au début, d'autant plus que ce couvent lui a été recommandé par le frère Gérard Magellan. La jeune fille décide alors de sauver sa réputation en accusant la bonne renommée de frère Gérard. Elle écrit à Saint-Alphonse de Ligorie. Elle accuse le frère Gérard d'entretenir des relations scandaleuses avec une jeune fille d'une famille qui héberge souvent le frère Gérard au cours de ses tournées. Scandale. Alors Saint-Alphonse de Ligorie fait venir le frère Gérard. Il lui fait part de l'accusation qui pèse sur lui d'adultère et tout ça. Et à sa grande surprise, le frère Gérard ne dit aucun mot pour se défendre. Il baisse la tête et garde le silence. Vous direz, il est malade. Non, non, écoutez bien. Saint-Alphonse est presque ébranlé par cette attitude. Il ne lui reste pas d'autre chose à faire que d'imposer une pénitence sévère. Cet écart de conduite épouvantable. Il lui interdit tout contact avec l'extérieur. Et ce qui est pire, pour le pauvre frère Gérard, c'est que Saint-Alphonse lui demande de ne plus recevoir la communion. Le lui défend. Pendant une longue période de temps, et la privation de l'Eucharistie dure 2 mois. Après ce temps, il est autorisé à recevoir l'Eucharistie à nouveau. Et ses confrères ne croient pas un seul mot à la calomnie. Ils admirent son silence et sympathisent avec lui. Et lui, il dit, comment pouvez-vous vivre dans une pareille situation? Et il répond, la réponse d'un grand saint, je me délasse dans l'immensité de Dieu. Vous direz que c'est prétentieux. Il le dit avec une telle humilité, sans doute, qu'on ne peut pas ne pas le croire. Je me délasse dans l'immensité de Dieu. Et quand Saint-Alphonse de Ligorie lui demande plus tard comment il a fait pour tenir le coup, il répond simplement, c'est Jésus lui-même qui a décidé de ne plus venir en moi. Comment n'aurais-je pas été d'accord avec lui? C'est une conception des choses. Il faut être un saint pour comprendre ça. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre. Je trouve ça admirable, par exemple. Mais quelque temps plus tard, la fille, la Néria, la méchante, là, elle tombe dangereusement malade. Puis elle écrit une autre lettre à Saint-Alphonse, puis là, elle avoue que tout ce qu'elle a dit sur le frère Gérard Magellan est une pure calomnie. Et Saint-Alphonse de Ligorie est grandement soulagé par cette nouvelle. Il fait venir le frère Gérard et lui demande pourquoi il n'avait même pas dit un mot pour prouver son innocence. Écoutez bien la réponse de Saint-Gérard à Saint-Alphonse de Ligorie. Il dit, Père, notre règle, à nous, rédemptoristes, ne nous dit-elle pas que nous ne devons pas nous excuser? Et Saint-Alphonse ne sait plus quoi dire, il dit « Bien, bien, allez, et que Dieu vous bénisse, mon fils. » Et c'est un peu après cette épreuve que le frère Gérard accompagne le père Margotte, hein, le procureur, dans une visite à Naples. C'est une longue tournée de charité puis de merveilles. Naples regorge de pauvres à cette époque. Hein, c'est une ville où il y a beaucoup de pauvreté encore aujourd'hui. Hein. On dit que le frère de M. Pirot de Radio Ville-Marie, son frère est jésuite, et s'occupe des plus pauvres, des enfants abandonnés dans les rues de Naples. Et le père Pirot, jésuite, oui. Alors, frère Gérard Magellan passe son temps à côtoyer les petites gens sur les marchés, dans les hôpitaux et les hospices de vieillards. C'est comme une suite ininterrompue de merveilles, dont la plus retentissante est le sauvetage d'un navire en péril dans la baie de Naples. C'est un miracle fantastique. Il fait ça en présence d'une foule de curieux qui assistent impuissants au naufrage d'une petite barque de pêcheurs. Alors, le frère Gérard court sur les flots en furie et tire l'embarcation au rivage. Vous direz, il marchait comme Jésus sur l'eau? Bien oui. On lui dit, comment avez-vous pu faire une telle chose? Lui dit le père Margotte. Il répond, Père, à Dieu, rien n'est impossible. Et frère Gérard Magellan retourne ensuite à Capocelli. Et l'année 1754 a été une mauvaise année pour les récoltes. Et on manquait de pain partout. Et le supérieur donne au frère Gérard toute liberté pour faire la charité qu'il veut faire. Écoutez bien que les stocks de la communauté ne font pas longue durée. Mais le frère Gérard Magellan a des recettes à lui pour trouver du pain, pour les pauvres et pour la communauté. Alors au moins, en 2 occasions, on le voit distribuer des quantités fantastiques de pain fraîchement sorti du four. Pourtant, il n'y a aucun boulanger qui a livré ses pains, dont l'ami est d'une blancheur éblouissante. C'est encore une multiplication des pains. Vous savez, je vous ai raconté plusieurs fois des phénomènes de multiplication des pains qui se déroulent encore au XXe siècle même. Moi, j'y crois personnellement assez facilement. Pourquoi pas? Si Jésus a pu le faire, pourquoi pas nous? Il nous l'a dit, vous ferez des miracles plus grands que ceux que j'ai faits. Et au début de 1755, Gérard retourne avec le père Margotte à Naples, et c'est à cette occasion qu'on enregistre en deux lieux différents un cas certain de bilocation, c'est-à-dire une double présence simultanée. Oui, il jouissait de ce privilège. Mais finalement, le frère Gérard revient définitivement à Capo-Célé. Il est nommé contremaître de la construction du couvent. Il y travaille avec une très grande intelligence. On peut dire qu'avant Saint-Gérard, Magella, il y a eu des merveilles qui se sont accomplies de temps en temps dans des huit saints, mais avec lui, il y en a tellement, c'est incroyable, hein, dans sa courte vie. On dirait que c'est son programme quotidien. Il avait Saint-Gérard Magella comme une espèce de pouvoir sur la nature, mais c'est pas lui qui l'avait, c'est Dieu qui l'avait par son entremise. Il avait ce don de prophétie qui lui venait de l'Esprit-Saint, un don de guérison. C'est Dieu qui guérit par lui. Une lecture des consciences. Puis la bilocation, je vous expliquerai pas trop. Il était à deux endroits en même temps, quoi. Puis des extases extraordinaires. Il levait de terre. Devant des tas de témoins, hein, il y a les faits concrets. Frère Gérard revient au couvent donc épuisé, là, d'avoir participé à la construction d'un couvent. Et on comprend que c'est la fin qui approche et plus que jamais les pauvres et les malades se mettent à affluer. Là, le frère crache le sang puis il dépérit. Son supérieur, le père Fiocchi, lui ordonne d'arrêter de cracher le sang puis de se remettre en santé. Alors il obéit puis il le fait. Et il sait que ce n'est que pour un certain temps de toute façon. Il retombe dans sa langueur après quelques semaines et bien en vue devant son lit. On lit la résolution qui donnait le sens de toute sa vie. Voici le texte. « Ici, on fait ce que Dieu veut, de la manière qu'il le veut, et aussi longtemps qu'il le veut. » Je répète. « Ici, on fait ce que Dieu veut, de la manière qu'il le veut, et aussi longtemps qu'il le veut. » Le 15 octobre, fête de Sainte-Thérèse d'Avila, dont je vous ai parlé hier, il demande à recevoir le viatique, c'est-à-dire la communion, pour le grand voyage. Et il avertit que c'est la dernière journée qu'il a à vivre sur terre. Une journée très calme. Passé dans la prière, la résignation, et vers le soir, il s'agite, et puis... Il a l'air troublé par une tentation de découragement, mais tout de suite, il se met à genoux dans son lit, puis il dit à haute voix, « Oh, voici la Vierge. » Rendons-lui hommage. Ça rappelle la mort du frère Hilaire à Saint-Benoît-du-Lac, il y a 50 ans. Il est mort un peu comme ça. Il disait qu'il voyait la Sainte Vierge. Il a annoncé, frère Gérard, que ce serait sa dernière journée, mais il prédit aussi que lors de sa mort, il sera seul. Et malgré les avis qu'il a donnés sur l'imminence de sa mort, bien, en le voyant si calme et si reposé, on le laisse passer la nuit tout seul. Puis un peu avant minuit, le frère infirmier fait une visite. Il constate que le frère Gérard est à l'agonie. Alors le frère infirmier a tout juste le temps de trouver un père pour donner une dernière absolution, puis le frère Gérard Magella meurt aux toutes premières heures du 16 octobre 1755. Qu'est-ce qui est arrivé après? Il a été béatifié en 1893 par Léon XIII, puis a été canonisé par Saint-Pie X en 1904. Saint-Gérard Magella, c'est le patron des mères de famille. Il est étrange de voir qu'un tel patronage soit accordé à Saint-Gérard Magella. En somme, il n'a pas vécu la vie du mariage, vous l'avez vu, il est mort alors qu'il était encore jeune, 29 ans. Il n'a pas eu à supporter les devoirs des époux, des parents. Il n'a pas partagé sa vie personnelle avec des futures mères. Il connaissait pas ça, vraiment, les inquiétudes des futures mères. Surtout quand les complications sont prévues pour la naissance de l'enfant, qu'il y a des maladies ou des problèmes. Et pourtant, il y a dans la vie de Saint-Gérard Magella quelques interventions miraculeuses en faveur de futures mères. Et un jour qu'il venait de quitter une maison à Oliveto, une jeune fille se hâte de le rejoindre en tenant en main un mouchoir qu'il a oublié sur une chaise. Puis il lui dit, garde-le, il te sera très utile un de ces jours. Alors la jeune fille le garde. Elle se marie. Et lorsqu'elle est sur le point de mettre son premier enfant au monde, elle entre dans une telle faiblesse qu'on a l'impression qu'elle va mourir. Alors elle demande qu'on lui apporte le mouchoir que lui avait laissé Saint-Gérard. Et dès qu'elle l'a en main, elle prie et le danger passe instantanément. Et l'enfant vient au monde sans difficulté. Un autre fait semblable est rapporté dans le cas d'une jeune mère de famille appelée Méola, qui est sur le point de mourir au moment de l'accouchement, et les parents de la jeune femme en informent le frère Gérard, et tout se passe heureusement, et pour la mère et pour l'enfant. Et il y a des tas de faits comme ça que je pourrais vous raconter, il y en a beaucoup. Au point que les mamas italiennes me considèrent comme le saint des heureuses naissances. Il santo dei felici parti. Des milliers de futures mamans ont eu recours à lui. Ils ont expérimenté son assistance et en certains hôpitaux catholiques, la maternité est mise sous le patronage de Saint-Gérard. Puis on met à la disposition des patientes des feuillets de prière, puis des images de Saint-Gérard. Et nombreux sont ceux aussi qui ont reçu à leur baptême le prénom de Gérard ou la forme féminine de Gérardine ou Gérarda. Il y a une Ligue de Saint-Gérard. C'est une association sans but lucratif qui a été fondée avec l'approbation des autorités ecclésiastiques. C'est pour vénérer Saint-Gérard comme patron des mères. Elle a été lancée ici au Québec après avoir été lancée en Europe puis à Toronto par le père Alcide Bouchard, rédemptoriste. Il y a deux buts, c'est la protection spéciale de Saint-Gérard pour les mères qui attendent un enfant, puis aussi la lutte contre tous les mouvements terribles d'avortement. Les évêques se sont bien prononcés à ce sujet. L'avortement, lié de si près à la vie, n'est pas d'abord un problème d'ordre médical, encore moins d'ordre légal, mais une question qui englobe toute la vie humaine. Aucune loi humaine ne peut en faire un bien, ni pour l'individu, ni pour la société. Aucun pouvoir humain ne peut instituer moralement un quelconque droit à l'avortement. Car la protection de l'enfant à naître fait partie des droits de la personne. Quand les évêques parlent comme ça, je trouve qu'ils parlent comme des hommes. C'est pas une question de foi, c'est une question d'évidence. Si vous voulez faire partie de cette Ligue de Saint-Gérard, vous pouvez téléphoner au besoin à la paroisse Saint-Alphonse à Montréal, au boulevard Crémazie, ou vous envoyez votre nom et votre adresse à la Ligue Saint-Gérard, 10 018 Avenue Royale, à Sainte-Anne-de-Beaupré, GOA3CO. Il y a de très belles prières, et je termine avec une prière. Dieu Tout-Puissant, dans ta sagesse, tu as voulu que Saint-Gérard Magella soit le protecteur des mères et des enfants qui n'ont pas encore vu le jour. Nous te prions par l'intercession de Saint-Gérard de répandre ta lumière sur le peuple chrétien ici au Québec, afin que la mentalité et les doctrines qui sont contraires au droit à la vie disparaissent de notre peuple croyant. Nous te supplions aussi par l'intercession de Saint-Gérard de protéger nos familles pour qu'elles soient de vraies cellules de transmission de la foi chrétienne. Saint-Gérard, protecteur des mères, intervient pour nous auprès de notre Père du ciel, par Jésus le Christ, notre Seigneur.